Les informés, présidentielle 2022, Adil Ferkan.
11h24, bonjour à tous, bienvenue, édition spéciale des informés présidentielles 2022. On s'excuse d'entrer puisque habituellement c'est Vanessa que vous retrouvez pour les petites annonces. Exceptionnellement, vous savez qui dit édition spéciale, dit cas exceptionnel. Eh bien on s'excuse d'entrer puisque aujourd'hui à 11h30, nous serons avec le président candidat Emmanuel Macron qui sera à l'antenne avec nous en direct pour 20 minutes, 15 minutes d'interview exclusive. Et avec moi à mes côtés, Nasser Khétan, bonjour.
Bonjour Adil, bien, comme tu l'as dit, donc le président Emmanuel Macron va être à l'antenne, comme on a eu d'ailleurs
Yannick Jadot.
Jadot qui est intervenu, on a invité tout le monde.
C'est bien de poser la question, Nasser, il faut le préciser à l'antenne, on a invité tout le monde.
Sans exclusif.
Exclusif. Effectivement, tout le monde, tous ont répondu plus ou moins oui. L'intention, en tout cas, a été, Nasser Khétan, de dire oui, ça nous intéresse. J'ai eu Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen.
On a eu des accords, tous. Ensuite, pour des raisons de timing.
Jean-Luc Mélenchon, par exemple.
Jean-Luc Mélenchon devait venir et il a annulé au dernier moment parce qu'il devait partir dans les dom-tom ou je sais plus où. Ouais.
Et puis, on a eu quelques complexités à trouver une petite date. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais il faut dire, effectivement, à tous nos auditeurs qu'on a invité Nasser Khétan.
Nous sommes une radio républicaine, laïque, démocrate, et tout le monde a droit à la parole, et c'est comme ça qu'on fonctionne, et c'est, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses.
Parce que moi, je vois quelques griefs, effectivement, sur les réseaux sociaux, nous reprochant, nous, la radio, de n'inviter que quelques-uns. Eh bien, on vous répond non. Voilà, je crois qu'on a été suffisamment clair.
Ça, c'est des gens qui n'écoutent pas la radio.
Voilà,
c'est des gens qui n'écoutent pas la radio ou qui ont d'autres idées dans la tête.
Jean-Luc Mélenchon date encore d'hier. Nasser Khétan. Hier, j'ai encore dit à Jean-Luc Mélenchon, si on pouvait bloquer une date pour aujourd'hui, on m'a dit que c'était un peu compliqué. Voilà, et qu'on verra pour le second tour.
Oui, mais d'ailleurs,
donc on a pris date pour le second tour.
Oui, mais on a aussi tous ces collaborateurs régulièrement. Hein. On a eu Éric Coquerel la semaine dernière dans une réunion à Paris. On a le député de Montreuil, là, comment il s'appelle
Les Insoumis.
Oui, c'est comment il s'appelle.
Je connais que lui en plus, c'est le pire.
Il vient régulièrement chez nous,
c'est vrai, et régulièrement sur notre antenne.
Voilà, ce Sofia Chikirou qu'on connaît bien, maintenant, que moi je connais depuis des années. Donc voilà. Donc il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de préférence. Voilà. Donc,
Nasser Khétan, la situation est extrêmement préoccupante, selon évidemment les sondages, selon ce qui se dit ici et là. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, concernant, évidemment, ça se passe dimanche prochain, ça y est, c'est le premier tour des élections présidentielles. Est-ce que l'heure est grave?
Oui, l'heure est grave. Mais moi j'ai un peu de bouteille, donc j'ai un petit peu le privilège de l'âge. Ce qui se passe, c'est que depuis les années 80, la préférence nationale, les thèses d'extrême droite ont pénétré toute la société française. Mmh. Et les partis dits de gouvernement ont une lourde responsabilité là-dedans. Il y a quelques années, on aurait dit le dixième de ce que dit Éric Zemmour, on aurait dit le centième de ce que dit Marine Le Pen, on aurait dit le millième de ce que dit Éric Ciotti, mais le type, il y aurait eu un tollé général, il y aurait eu un front, il y aurait eu des attaques, il y aurait eu des plaintes.
Pourquoi on laisse faire aujourd'hui? Pourquoi on laisse faire? On parlait d'Alexis Corbière, j'ai retrouvé son nom. Voilà.
Alexis Corbière.
Voilà, absolument.
Bonjour Alexis, s'il nous écoute, on le salue.
Qui est un invité récurrent chez nous ici, évidemment, sur Beurre FM. Mais pourquoi on laisse faire, selon vous? On est à 2 minutes avant de retrouver donc le président candidat en direct, ici même. Pourquoi Nasser Khétan, on laisse faire aujourd'hui?
Non, parce que les partis dits de gouvernement ont eu de la faiblesse, notamment dans les quartiers. Nous, on a monté un tas d'associations dites républicaines. On s'est aligné sur les conquêtes sociales, sur les luttes antiracistes, sur les luttes contre les discriminations, pour les droits de l'homme, pour l'égalité homme-femme, etc., etc. Et il y a des gens, des élus de gauche, de droite, dans les quartiers, ont laissé faire les choses. Et ça s'est gangréné, ils ont laissé se polluer l'atmosphère. Et un certain nombre de gens sont arrivés. Je pense notamment à des militants islamistes, notamment à des gens qui ont voulu instrumentaliser l'islam, qui est une très belle religion qui n'a rien à voir avec ce qu'on raconte. Et ces gens-là, ils ont commencé à occuper l'espace, donc la nature a horreur du vide. Les grands partis, comme le Parti communiste, qui avait un maillage considérable en France de solidarité à travers le Secours populaire, à travers la Croix-Rouge, etc., tout ça a été déserté. Ces gens-là ont occupé l'espace. Ils ont apporté des réponses, je veux dire, radicales, du point de vue de la société, du point de vue de la spiritualité, du point de vue de l'économie. Et ils ont joué sur du velours. Et ces gens-là, avec les mosquées, etc., ils ont tenu les quartiers.
Sauf
et
qu'on peut considérer, mon cher Nasser.
Et je termine. Oui. Les élus, pour avoir la paix sociale, ils ont géré avec eux, ils ont négocié avec eux. Et aujourd'hui, ça leur revient en pleine figure. Comme un boomerang.
Est-ce qu'on peut considérer, Nasser Kétan, qu'aujourd'hui, comme le pensent certains d'ailleurs, vous savez que Éric Zemmour est un espèce de... Enfin, je fais attention à ce que je dis, mais c'est un peu considéré comme le lièvre de cette campagne présidentielle.
Ouais, c'est un peu le lièvre. C'est, moi, j'ai pas peur d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, il est contre la République. C'est quelqu'un qui n'est pas républicain. Il est en dehors de la République. Il passe son temps à insulter tout un tas de gens qui ont construit ce pays, à dénoncer des conquêtes sociales. Éric Zemmour, il est dans l'ethnicisme. Il est dans la tribalisation. Alors que la France, c'est la Révolution française. Ce sont les conquêtes sociales. C'est la démocratie. C'est la laïcité. Tout ça, ce sont des choses qui sont précieuses et qu'il faut défendre chaque jour. C'est une conquête de tous les jours. Ce sont des équilibres à maintenir en permanence. Et Éric Zemmour, il est ailleurs. Donc, il n'est pas dangereux parce que la France, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça. Et j'en veux pour preuve ce formidable élan de solidarité qu'ont les Français dans toutes les régions du pays pour accueillir les réfugiés. Donc, je veux dire, c'est partout. On l'a vu, et on le voit à chaque fois lorsqu'il y a des famines, lorsqu'il y a eu le Covid, lorsqu'il y a des tremblements de terre. La France est une France généreuse. C'est une France solidaire. C'est pas la France de Zemmour. C'est pas la France de la haine.
Aujourd'hui, les sondages placent Marine Le Pen en nette progression. Est-ce que Éric Zemmour n'est pas venu adoucir le discours de Marine Le Pen?
Bah, il a arrondi les angles de Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen a laissé à Zemmour.
Alors, il est 11h32 précisément, et à 11h32, continue sur Marine Le Pen.
Oui.
Continuer sur Marine Le Pen.
Oui, donc Marine Le Pen, bien sûr, Zemmour est venu arrondir un peu les angles de Marine Le Pen. D'ailleurs, ces jours-ci, elle ne parle pratiquement plus d'immigration. Mais même Zemmour lui-même, maintenant, est ami avec les musulmans. Et il veut plus maintenant expulser les immigrés en situation régulière.
C'est vrai, absolument.
Et donc, il commence aussi à mettre un peu de l'eau dans
le
vin.
Allez, il est 11h32, jingle, les informés, spécial présidentiel.
Les informés, présidentielle 2022, Adil Ferkan.
Je vous l'avais annoncé ici même, donc sur BFM, les informés spéciales présidentielles 2022. On vous l'avait dit également, au dernier jour de cette campagne, eh bien notre invité, il s'agit du président candidat, Monsieur Emmanuel Macron. Et on parlera donc, comme je vous le présentais avec Nasser Kétan ici même, il y a quelques minutes, de mesures concrètes concernant la politique de la ville, de discrimination, de méritocratie, de stigmatisation, d'islamophobie, d'absence d'anosténisme et également aussi de vote. C'est ici que ça se passe et on en parle avec Emmanuel Macron, le président candidat qui est avec nous. Monsieur Emmanuel Macron, bonjour.
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 Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Nasser Kétan aussi qui est également sur le plateau. Ah.
Bonjour Emmanuel Macron.
Bonjour, heureux de vous retrouver.
Heureux également, souvenez-vous, c'était en 2017, vous étiez ici en plateau même. Vous en souvenez, j'imagine encore, monsieur le président candidat.
Et il nous avait écrit sur le livre d'or.
Absolument.
Je reviendrai pour dire ce que j'ai fait.
N'est-ce pas?
Donc il tient sa parole.
Donc je ne reviens pas, je suis pas encore là physiquement, mais je viens rendre compte sur votre antenne. Et pouvoir répondre à vos questions.
Voilà, et il tient sa parole.
Je compte bien venir également.
Absolument. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en direct. Les auditeurs vous écoutent partout en France, dans les quartiers populaires notamment. Première question que je vous pose, monsieur Emmanuel Macron, monsieur le président candidat. Dernier sondage, l'écart se creuse entre vous-même et Marine Le Pen, nette progression de Jean-Luc Mélenchon. On parle même d'un séisme ou même d'un désastre vu de l'étranger, vu de la presse étrangère. Et d'ailleurs, la France, est-ce qu'elle n'est pas à l'abri d'une victoire de Marine Le Pen, monsieur Macron?
Écoutez, moi, bon, d'abord, heureux d'être parmi vous, je vous le redis. Moi, je pense que il faut jamais être dans les scénarios catastrophistes ou commenter les sondages. Il faut être mobilisé. Et donc, moi, depuis, je dirais, il y a 5 ans, quand je suis venu sur votre antenne, j'étais très loin d'être un favori. Je sais donc que tout est possible dans une élection, puisque je l'ai vécu et je l'ai, en quelque sorte, moi-même rendu possible avec toutes celles et ceux qui m'ont accompagné il y a 5 ans. Les 5 années qui viennent de s'écouler n'ont pas été de tourpeau, on le sait tous ensemble. Mmh. Et on a vécu des choses qu'on n'avait pas prévues. Et donc, je ne connais qu'une école, c'est celle du travail, de l'engagement, de la conviction. Donc moi, je veux convaincre d'abord les gens d'aller voter, parce que c'est comme ça qu'on change le monde et notre pays. C'est un message que je veux adresser à tous. Allez voter, parce qu'à chaque fois que vous n'allez pas voter, vous laissez les autres, et au fond ceux que vous n'aimez peut-être pas, décider pour vous de l'avenir de votre pays. Et la deuxième chose, c'est que moi, je crois que, d'abord, on a fait beaucoup de travail ces 5 dernières années qui vont dans la bonne direction. Parfois, pas assez, pas autant que je le voudrais. D'autres fois, ça a été mieux. Mais je pense qu'on a devant nous, on a un pays très fort qui doit être plus uni et on peut faire encore beaucoup plus sur les années qui viennent.
Mais qu'est-ce
donc,
que
je
vous
me battre pour continuer à convaincre jusqu'à la dernière
avant
seconde.
De donner la parole à Nasser Kétan.
Voilà, un optimiste volontaire.
Un optimiste volontaire, mais qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui sont dans les quartiers populaires et qui se disent finalement, on est indécis, on est déçus et vous êtes en train de leur dire qu'il faut aller voter. Mais ils n'y croient pas ou ils n'y croient
alors,
pas.
Moi, alors,
vous leur répondez quoi, Emmanuel Macron?
Il y a 5 ans, j'avais pris un engagement pour vos enfants, qui était de réduire le nombre d'enfants par classe, de les dédoubler en CPCE1, on l'a même fait pour la grande maternelle. Engagement tenu. Les 12 enfants par classe dans les quartiers, on l'a fait. Partout, c'est repéré plus. La prime aux professeurs, à nos enseignants qui sont dans les quartiers et qui ont un rôle si important, on l'a fait. Engagement tenu. On a créé 126 cités éducatives dans nos quartiers. Engagement tenu, même dépassé. J'avais pris un engagement, j'avais même été critiqué, il y avait eu des petits... Bon, ce qui était ma faute sans doute en 2018 sur la rénovation urbaine. Ben, le budget de l'ANRU, quand j'ai été élu il y a 5 ans, était de 5 milliards. Au moment où je vous parle, il est de 12 milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'on a déployé, compte tenu de l'effet multiplicateur, plus de 48 milliards d'euros de projets qui sont en cours, qui rénovent les cités et les quartiers. C'est plus que la première génération du renouvellement urbain. On l'a fait. L'engagement pour vous, pour les quartiers, c'est aussi la sécurité. On a défini 62 quartiers de reconquête républicaine qui ont été plus de moyens de forces de sécurité, de magistrats, d'éducateurs et autres. On a mis 1200 policiers et gendarmes de plus dans ces quartiers. Il n'y a pas un quartier où aujourd'hui il n'y a pas plus de gendarmes ou de policiers. Et donc on a remis là aussi de la pression, et en particulier pour lutter contre les stupes. C'est aussi les stages, la formation et l'emploi. J'avais pris un engagement dès 2018. Vous avez été très engagé sur ce sujet. Les stages de troisième... où les mamans dans les quartiers me disaient « Mon fils veut un stage de troisième pour découvrir un nouveau métier, on lui propose rien, si ce n'est le commerçant du quartier. » On a mis en place une bourse, avec la France une chance, une bourse des stages. On en a largement plus de 30 000 qui était l'engagement que j'avais pris. On a développé l'alternance et l'apprentissage, qui est un formidable levier dans les quartiers. Quand vous m'avez élu, il y avait moins de 300 000 apprentis, on est à plus de 710 000 au moment où je vous parle, qui est un levier pour former. Et il y a la promotion par l'économie, l'accès à l'emploi, l'opportunité économique. On n'avait jamais autant et aussi vite réduit le chômage. C'est nos quartiers, les premiers, qui en ont été les bénéficiaires.
Alors,
voilà quelques-uns pour moi des très grands sujets, mais c'est pour moi ça. Je crois à cette politique de l'efficacité du résultat. Et je veux aller plus loin.
Nasser Kétan.
Oui, dans les quartiers, les gens sont au centre de leur vie. Ils ont leurs relations familiales, amicales, professionnelles. Les gens sont contents de vivre dans ces quartiers. Mais ils subissent une discrimination et on les désigne à une vindicte. Et puis on sort des thèses comme ça, des thèses... la préférence nationale et les thèses d'extrême droite ont diffusé et pénétré la société française à tel point que les gens qu'on dit d'origine de l'immigration, etc., on commence à les discriminer. On va enlever les allocations familiales, lorsque l'enfant vole un rétroviseur, on veut enlever le droit à la santé, on veut revenir sur la carte de séjour, on veut revenir sur le regroupement familial, on entend ça sur ces parties. Ce sont, Monsieur le Président, ça ce sont des droits acquis par la République au même titre que la cinquième semaine de congés payés. On oublie souvent ce que la France est le pays des conquêtes sociales. Est-ce qu'il faudrait pas, pour définitivement couper l'herbe sous les pieds de ces gens-là, inscrire dans le marbre, notamment au niveau européen, puisque la France est présidente du Conseil européen, inscrire dans le marbre toutes ces conquêtes sociales, de façon à ce qu'on ne revienne plus sur ce genre de choses et qu'on passe à autre chose.
Monsieur le Président candidat.
Alors, le discours ambiant que vous venez de dénoncer, on le connaît, il est affreux. Et moi, je ne m'y habitue pas. J'ai dénoncé samedi dernier, en reprenant cette belle formule de Peggy sur les âmes habituées, je suis, comme vous, révolté. Et d'ailleurs, moi, je me suis engagé en politique par sentiment, par indignation, par révolte. Et donc, moi, je continue à être révolté contre les injustices réelles, mais surtout ce discours qui consisterait à dire que les problèmes de la République viennent, au fond, d'une partie. Les gens du quartier, les musulmans pour les autres, ce serait encore... nos compatriotes issus de l'immigration, en confondant d'ailleurs tous ces sujets de manière scandaleuse. Mmh. C'est une des conquêtes, c'est aussi de ne plus confondre ces sujets. Mais les deux complices d'extrême droite sont en train d'installer un discours où les uns vont faire de la remigration, les autres nous expliquent ce matin et hier que le halal et le kasher seront interdits dans la République française.
Oui.
Donc c'est l'immense, eux, c'est la grande régression qu'ils nous proposent. C'est la grande régression. Nous avons un sujet qui a été longtemps, et qui est encore le sujet des discriminations. Ce sujet-là, il faut y répondre à la base. L'école. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre plus de moyens, plus d'ambition pour l'école de la République. Dans les quartiers, on concentre les difficultés. Ce qu'on a commencé, je vais aller au bout de ce sujet,
oui,
avec nos enseignants qui sont nos meilleurs alliés. Deux, lutter contre les discriminations. On a lancé une plateforme qui permet, sur toutes les formes de discrimination d'ailleurs,
oui,
que ce soit les origines, la religion, le handicap, etc., de recueillir les plaintes et d'y répondre grâce à la défenseur des droits. Et donc on a d'ailleurs vu qu'en matière d'emploi, de logement, on avait d'immenses problèmes encore, et je veux aller plus loin en ayant une politique de testing généralisé, particulier pour toutes les grandes entreprises. Et il faut combattre pied à pied ce discours atroce qui en effet stigmatise une partie de notre population. C'est une chance pour la France. Et nos quartiers populaires, qui parfois concentrent beaucoup de difficultés, sont aussi ceux dans lesquels il y a le plus de promotion sociale. Et on sort le plus de Françaises et de Français, quelles que soient d'ailleurs leurs origines, ils sont Françaises et Français. Ils arrivent à progresser et c'est en fait là qu'on met souvent les nouveaux arrivants. Beaucoup de nos quartiers disent ça. C'est aussi pour ça qu'il faut maintenant répartir les efforts.
On a pas mal de sujets.
Par rapport aux politiques, oui, de solidarité, pour être très explicite avec vous,
oui,
moi je suis pour que, sur ce sujet... D'abord, on remette des moyens pour mieux accompagner les gens, parce que la politique de solidarité, c'est pas simplement des aides, c'est aussi de l'accompagnement humain, c'est aussi la possibilité de se réinsérer. Mais surtout, il y a une réforme à laquelle je tiens, qui est celle de la solidarité à la source, comme pour le prélèvement à la source avec ce qu'on a fait, c'est de permettre à toutes celles et ceux qui ont droit, bien, de pouvoir toucher les aides, allocations familiales, APL, évidemment RSA aussi, de manière beaucoup plus simple, pour qu'on fasse pas d'économie sur la misère, si je puis dire.
Dites-moi, Monsieur Emmanuel Macron, on a encore pas mal de sujets et je sais que le temps, évidemment, est réduit. Alors, vous savez, il y a pas mal d'associations qui ont écrit une tribune pour vous interpeller sur les mesures concrètes en direction des quartiers populaires, notamment, on pense à ces chantiers de politique de la ville. Alors, la question est très simple, Monsieur le Président candidat. Je vous la pose clairement. Faut-il dépasser aujourd'hui cette notion de la politique de la ville? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui? Est-ce que c'est pas le moment de changer de mesure ou changer de logiciel, Emmanuel Macron?
Moi, je le pense totalement. Je pense que c'est une politique républicaine, en quelque sorte 2.0, qu'on est en train de faire. Et au fond, ce qu'on veut, c'est une politique du mérite, de la réussite et du réinvestissement. Et donc, il faut décloisonner, en effet, ce qui est fait. C'était un peu ce truc que j'ai voulu lancer dès 2018. Mais ce que je veux qu'on puisse démultiplier ensemble, c'est aller beaucoup plus loin et plus fort sur l'éducation, la mixité sociale à l'école, l'innovation pédagogique, inventer justement l'école et le périscolaire beaucoup plus fortement. Marseille en grand, est-ce qu'on est en train de faire dans les quartiers nord, c'est ça. Deuxième point, c'est une politique d'égalité réelle et de mobilité sociale qui passe par la lutte contre les discriminations, mais par une politique démultipliée sur formation, accès à l'emploi et aide à l'entrepreneuriat et à la réussite économique. Avec ce qu'on veut faire, ce que la BPI a commencé à faire durant ce mandat, avec beaucoup d'associations, d'entrepreneurs justement des quartiers. C'est une formidable politique républicaine aussi pour lutter contre pour le désenclavement, pour la sécurité pour tous, pour la mobilité aussi, c'est-à-dire qui permet aussi le transport des quartiers vers les centres-villes, de ce qui est parfois des bouts de ville qui sont exclus, qui sont renvoyés, assignés comme géographiquement à eux-mêmes vers les centres-villes. Donc je pense que c'est beaucoup plus étendu qu'une politique de la ville, parce que c'est au fond, il y a plein de facteurs qu'on va prendre, de l'éducation à la santé, j'aurais pu en parler, quand on parle de déserts médicaux, on oublie souvent de dire qu'il y a évidemment les quartiers très ruraux, mais les quartiers les plus urbanisés, les plus pauvres, sont des déserts médicaux, et la politique que je veux lancer en matière de santé les touche. Donc moi, je crois, si vous voulez...
Donc on l'aura compris, que vous voulez changer de logiciel.
Je veux, ce qu'on a commencé, je veux le démultiplier parce que je pense qu'il n'y a aucune fatalité. Et je pense qu'il y a une jeunesse et une énergie qui est là et qui est une richesse pour notre République. Elle est plurielle, elle est diverse, elle vient d'histoires, de géographies différentes, c'est un trésor pour la République. Il faut simplement qu'on investisse plus parce que c'est plus dur et qu'on lui donne la chance de réussir.
Nasser Khétan, question d'actualité justement.
Oui, à propos des réfugiés concernant la guerre en Ukraine, les Français ont été à la hauteur dans toutes les régions du pays pour l'accueil des réfugiés. Néanmoins, certains à droite et à l'extrême droite se sont mis à vouloir hiérarchiser les réfugiés entre eux. C'était quelque chose d'indigne. Les Africains, les Syriens, les Ukrainiens. Emmanuel Macron, vous avez mis en place une carte de séjour qui permette tout de suite aux réfugiés d'avoir un statut, de travailler. La France est le pays des droits de l'homme, du droit d'asile. Justement, la France a pris la présidence du Conseil européen. Ne faudrait-il pas définitivement aussi inscrire cette mesure dans le droit européen et l'adapter à tout réfugié, quelle que soit son origine, quelles que soient les conditions de son arrivée, climatique, guerre, etc. Pour couper définitivement un petit peu cette espèce de jeu où on va préférer tel réfugié de telle région à tel réfugié de telle région. Est-ce qu'il ne faut pas, institutionnaliser ce droit à l'accueil, cette carte de séjour qui pourrait être, enfin, ce statut qui pourrait être un statut intermédiaire.
Monsieur le Président candidat.
Alors, d'abord, je pense que c'est notre devoir, notre dignité, et évidemment que moi je suis fier que les Françaises, les Français, les familles, les communes, beaucoup de nos maires ont fait et été dans ce geste de solidarité. Deuxième chose, nous dans notre constitution, dans le préambule même, le préambule de 46, nous avons l'asile et la protection pour celles et ceux qui fuient la guerre et qui sont des combattants et combattantes de la liberté. Et donc là, on a un titre européen qui simplifie les choses, mais la France l'a toujours fait. Et donc, moi, je me félicite qu'on ait mis en place ce titre, qu'on simplifie les choses. Je suis pour une politique européenne qui puisse le faire. Et vous savez, ceux qui se sont opposés à une politique européenne pour les réfugiés, ce sont les amis de Madame Le Pen, qui, en Pologne, en Hongrie, ont fait la hiérarchie entre les réfugiés. Nous ne l'avons jamais voulu. Par contre, il faut être rigoureux. C'est-à-dire qu'il y a, en même temps, des filières d'immigration clandestine qui n'ont rien à voir avec l'asile. Je ne vais pas être démago avec vous. Et donc, on a aujourd'hui de l'immigration qui vient de plusieurs régions, d'Afrique, Proche-Moyen-Orient, Caucase ou autres, parfois des Balkans occidentaux, où ce ne sont pas des pays en guerre, ce sont des pays avec lesquels on commerce, il y a des visas, on accueille des étudiants, on échange, et on est fiers de ces échanges-là. Et des gens arrivent sur notre sol en disant « je suis réfugié », parce qu'ils rentrent dans la procédure. On ne peut pas, là, leur donner un titre temporaire, ça n'aurait aucun sens. Et donc, si on veut pouvoir continuer de prendre notre part, il faut aussi qu'on soit rigoureux pour lutter contre l'immigration clandestine, ce que j'ai commencé à faire et je veux aller plus loin au niveau français, au niveau européen. Ça veut dire démanteler les filières d'immigration clandestine, ça veut dire mieux protéger l'espace européen à ses frontières face à ces filières-là, ça veut dire instruire beaucoup plus vite les procédures à l'OFPRA puis à la CNDA pour qu'on puisse avoir la procédure complète en moins de 6 mois. Et avoir des politiques de retour vers le pays d'origine beaucoup plus efficaces. Parce que s'il n'y a plus de droits, si on est trop laxiste, si je puis dire, sur tous ces sujets, alors il n'y aura plus de vraie politique de ville. J'insiste sur ce point.
On doit avancer, Emmanuel Macron. Une question qui préoccupe beaucoup de Français de confession musulmane. Vous savez, Emmanuel Macron, la haine musulmane prend des proportions épidémiques de la haine anti-musulmane. C'est un expert des Nations Unies, c'est pas moi qui le dis, et qui exhorte les États à agir face à la discrimination islamophobe. Je vous apprends pas que la montée de l'islamophobie, la population musulmane, est souvent la cible de discrimination, avec l'effet Éric Zemmour notamment, de racisme, d'agression. Alors, je vous pose la question, Emmanuel Macron, monsieur le président candidat, l'islamophobie, aujourd'hui, ce racisme, est-ce qu'il est devenu acceptable? Est-ce que c'est un discours ouvertement démocratisé?
Non, d'abord, encore une fois, les gens se sont habitués beaucoup trop à ce discours. Donc, le racisme en France, on le condamne, on le poursuit. De manière très claire. Donc, là-dessus, nous avons une délégation interministérielle, des procédures, un droit qui est clair, et c'est aussi pour ça, ça fait partie de ce que la République poursuit, réprime, et je me battrai sans relâche contre ça. Ensuite, moi, je ne confonds pas le racisme et la haine ou les agressions à l'égard des religions. Et vous avez raison de dénoncer les actes qui ont été, se sont multipliés contre les musulmans. Je veux ici aussi dire qu'il y a eu beaucoup d'actes antisémites ces dernières années, qu'il y a eu beaucoup d'actes, y compris des saccages contre les catholiques. Et donc, tout ça existe dans notre République. Et donc, moi, je veux dire deux choses. La première, pour la première fois, on a lancé une mission confiée à deux parlementaires, Mme Florenne et M. Mendès, pour justement faire rapport et proposer des mesures très claires pour lutter contre ces actes anti-religieux. Ensuite, je vais ici rappeler, et je le dis très clairement, très solennellement, nos compatriotes de religion musulmane, et je le dis dans cette période de Ramadan, sont des concitoyens comme les autres. Et il n'y a aucune religion qui est l'ennemi de la République. Mmh. Mais il y a un principe simple dans la République.
Alors pourquoi ils ont ce sentiment-là, les Français de confession musulmane aujourd'hui, se sentent
mais
évidemment...
Mais je sais, c'est pour ça que je le redis, avec... je suis président de la République et je suis candidat, c'est que moi j'ai toujours défendu cela, toujours. Je me suis battu contre celles et ceux qui, déformant la religion au nom de la religion, prenaient la sécession contre la République. Parce que ça, c'est inacceptable. Mais qu'est-ce que c'est la République et la laïcité? C'est de dire, vous êtes des citoyennes et des citoyens. C'est le plus beau trésor. C'est-à-dire, je me fiche de votre couleur de peau, de votre prénom, de votre adresse. Et ce que vous croyez ou ce que vous ne croyez pas ne m'intéresse pas. Vous êtes citoyennes, citoyens avec les mêmes droits. Et vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Et moi, je ne peux vous distinguer en fonction de cela. Par contre, jamais vous ne pouvez vous abriter derrière votre religion pour ne pas respecter une loi de la République. Jamais. Mmh. C'est ça le pacte. Et c'est ça que nous devons chérir tous ensemble, parce que c'est ce qui nous permet, nous, nations diverses, plurielles, de multitudes d'origines, de cultures, de religions, de faire nation. C'est ça notre force. Et donc il ne faut laisser prospérer ni les discours de sécession, ni celles et ceux qui, au nom de la religion, combattent la République et parfois l'attaquent, ni celles et ceux qui, prétendant défendre la République ou la France, la divisent. Et surtout, ni leur histoire, ce qui est le fruit de nos conquêtes.
Mais alors, qu'est-ce que vous répondez, Emmanuel Macron ? Absolument, les jeunes qui sont issus des quartiers sont stigmatisés, ils disent ça clairement, quand on lit leurs messages un peu partout, qui, vous savez, ces éléments qui slaloment entre les discriminations et les barrières culturelles et sociales. Vous leur dites quoi, justement, Emmanuel Macron, monsieur le président candidat ?
D'abord, je leur dis, premier point, moi je veux vous donner, continuer de vous donner encore plus, les moyens de réussir. Et qu'à chaque moment de la vie, les inégalités de départ qui sont peut-être les vôtres, on se met en situation de les corriger pour vous donner les mêmes chances de réussir. Certains réussiront, d'autres non. Ça dépend de vos mérites, de votre talent, de votre engagement. Mais nous, on doit corriger ça. La deuxième chose, je lutterai sans relâche contre toutes les formes de discrimination. La République, elle ne peut pas supporter qu'un jeune garçon, une jeune fille n'ait pas les mêmes chances parce qu'il a un visage, un prénom, une adresse qui renvoie à des représentations qui réduisent ses chances. Et ça, je me battrai sans relâche. Troisième chose que je veux leur dire, c'est moi, peu m'importe ce que vous croyez, ce que vous ne croyez pas, et ne vous habituez jamais à ces messages-là. Vous avez votre place totalement dans la République. Mais j'attends de vous que vous soyez des enfants de la République, qui la défendent, qui la protègent, parce que c'est notre trésor commun.
Alors, avant de donner la parole à Nes,
nous avons la République, c'est nous. C'est nous, la République. Ne laissez personne... La République et la France, c'est nous. Ne laissez personne vous la voler.
Alors, Emmanuel Macron...
Ceux qui la réduisent, ceux qui la fracturent, ils essaient de faire un casse. Mais la République, c'est nous tous.
Méritocratie, est-ce que c'est un problème ou une solution? Parce que beaucoup ont le sentiment qu'ils ne sont pas considérés comme leurs concitoyens. En d'une phrase.
Et la méritocratie, d'abord, elle se décrète pas, c'est donner les possibilités de réussir, reconnaître les mérites et de faire grimper. Et donc, ce que je crois par l'école, par l'alternance, par l'apprentissage, c'est la clé. Donc, moi, je n'ai jamais, je vais vous dire, j'ai jamais parlé à notre jeunesse, où qu'elle soit, et j'étais toujours frappé dans les quartiers. Les quartiers, ils demandent pas de l'aide ou des aides. Ils demandent de pouvoir réussir comme les autres.
Emmanuel Macron, peut-être la dernière question. L'extrême droite et la droite extrême dans ce pays n'ont pas arrêté de progresser depuis les années 80. Les partis dits de gouvernement ont eu lourde responsabilité dans cette progression. À chaque fois, l'arc républicain, appelé aussi parfois cordon sanitaire, a toujours fonctionné. Aujourd'hui, les digues semblent avoir sauté. Quel est votre sentiment et quelles sont les conditions d'un sursaut face à ces menaces?
Vous savez, ça c'est pas moi qui dois apporter la réponse. Parce que moi je dois me battre et me mettre en meilleure situation au premier tour. C'est la question que vous devez l'adresser à tous les autres partis qui s'inscrivent dans le champ républicain. Et demandez-leur le soir du premier tour très clairement de se positionner. Posez-leur cette question de confiance et vous verrez. Moi je pense qu'on doit se battre pied à pied pour convaincre. Je veux pas convaincre contre. Je me bats férocement contre les responsables de l'extrême droite et contre leurs idées. Mais je veux aller convaincre pied à pied chacun de leurs électeurs. Et je le dis très clairement aux jeunes de nos quartiers, ne cédez pas aux extrêmes, quels qu'ils soient, ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite, parce que ces projets ne proposent pas d'avenir. Ce sont des projets qui sont dans des simplifications. Je ne confonds pas les deux extrêmes. Ils sont très différents dans leurs prémices, leurs présupposés.
Enfin,
la réalité, c'est que c'est par un projet républicain, par de l'ambition, par plus de boulot, par la lutte contre la discrimination, par la méritocratie, par ce combat sur le fond des idées et l'énergie qu'on y mettra, qu'on gagnera. Par aussi la politique que j'ai lancée de reconnaissance de notre histoire avec le continent africain, de reconnaissance sur la guerre d'Algérie, de regarder notre histoire en face sans tabou.
Justement,
de dire à notre jeunesse, quelle que soit votre origine, la France, c'est une chance. Et si vous êtes jeune, issu de l'immigration venant du continent africain ou d'autres, c'est une chance.
Et ben justement,
il nous reste deux minutes. Deux minutes avant d'en l'antenne.
Justement, vous êtes le premier président de la République à avoir regardé l'histoire et la mémoire en face, comme vous venez de dire. Et nous, ici à Beurre FM, ça nous fait bien sûr plaisir. Autour des préconisations du rapport Stora, un travail considérable a été accompli pour la première fois depuis des décennies. Reconnaissance sur l'affaire Audin, sur Boumengel, sur le 17 octobre 1961, où vous avez reconnu ce crime d'État. Des échanges réguliers ont lieu entre l'Algérie et la France, notamment pour accueillir des chercheurs, des étudiants, des chefs d'entreprise. Est-ce que vous comptez continuer à accélérer cette dynamique et sur cette Méditerranée que vous avez appelée à construire de votre vœu entre la rive sud de l'Europe et nord de l'Afrique, vu un petit peu la multilatéralité qui a volé en éclats ces temps-ci sur la guerre en Europe? Est-ce que vous êtes engagé et vous avez envie d'accélérer et de renforcer un peu cette dynamique?
Bien sûr, vous savez, du Conseil présidentiel pour l'Afrique à la politique mémorielle historique avec le Rwanda, jusqu'à cet immense travail qu'on a mené tous ensemble sur la guerre d'Algérie, jusqu'à la conversion du regard sur notre politique avec l'Afrique, tout ce que j'ai initié pour moi est essentiel. C'est essentiel pour notre pays et son histoire. Parce que nous sommes des millions à avoir une histoire avec la guerre d'Algérie, avec le continent africain, le Proche et Moyen-Orient. Des millions. Et ces histoires parfois étaient réconciliables. On ne doit pas lâcher. Deuxième chose, oui, il faut continuer. Il faut réussir à refaire, et c'est tout l'objectif de notre sommet des deux rives et du travail qu'on a mené, il faut refaire de la Méditerranée un espace de paix, de dialogue, d'échange, de solutions pour le climat, pour le savoir, pour la culture. Et ça, c'est de lutter contre le repli nationaliste des deux côtés et la défiance. C'est
en tout cas,
le combat de notre génération. Mais je pense qu'on peut le faire. Et je pense que la France est formidablement outillée pour le faire.
On aurait aimé vous garder plus longtemps là, sur cette thématique.
Dernière question, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent partout en France, monsieur Emmanuel Macron? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message, principal message, quand on sait que dimanche prochain, la situation préoccupe beaucoup? On vous écoute.
Allez voter, allez voter. Ne laissez personne décider pour vous. Et moi, je veux vous convaincre que le projet que je porte est un projet patriotique, européen, qui porte fort la France et propose des progrès pour chacun, et qui reconnaît la diversité de notre pays, tous ses talents d'où qu'ils viennent. Et donc, ne cédez pas aux colères ou aux peurs.
Merci.
Nous faisons ensemble. La France, c'est nous.
Merci beaucoup. Merci Emmanuel Macron.
Merci Emmanuel Macron.
Merci à vous et courage.
Merci, courage
merci
à vous aussi.
Merci infiniment à vous.
Merci infiniment à vous également d'avoir été avec nous ici même dans les informés spéciales présidentielles 2022. Vous l'aurez compris effectivement. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Nasser Kétane, de cette interview?
Une chose, c'est que Emmanuel Macron aurait dû commencer sa campagne beaucoup plus tôt. Voilà, ça c'est parce que on le voit là, il déverse tous ses arguments, ces trucs. On aurait aimé l'entendre sur beaucoup de ces sujets. Il est parti un peu tard, donc là, bon, là c'est pas trop tard, mais on aurait aimé, voilà. Dans cette émission là, on a retrouvé le Emmanuel Macron de 2017. Ce que moi j'avais pas trop trouvé pendant le meeting. J'ai trouvé un peu en retraite. Bon. Mais là, on a retrouvé le punching, voilà, l'ambition pour la France. On le retrouve. Et voilà, la première réaction, c'est celle-ci. On aurait aimé qu'il commence un peu plus tôt, mais bon, il y a eu la guerre en Ukraine, etc. Donc il y a quand même des circonstances atténuantes. Mais voilà, donc ça, c'est la première réaction. La deuxième, c'est qu'il est clair. Il est clair. Déjà, il tient sa parole. Il revient à Beurre FM pour parler de la prochaine campagne.
Exact.
Il l'avait écrit. Et puis sur la République et sur le fait que chacun est chez lui dans ce pays, quelle que soit sa religion, etc. Il est clair. Il dénonce bien sûr la stigmatisation sur les histoires de conquête sociale. Bien sûr, il est pour valoriser tous les habitants des quartiers, pour mettre en place la méritocratie, parce que la République, elle n'a pas de quartiers perdus de la République, des choses comme ça. Ça c'est le langage de l'extrême droite. Mais la République, les quartiers sont dans la République. C'est pas des quartiers perdus. Donc il a cette dimension aussi de rassembler, de cohésion nationale. Donc ça, on peut aussi retenir cette idée. Et puis cette idée aussi qu'il a cette ambition pour la Méditerranée, qui peut être dans...
Moi, je retiendrai que la France, c'est nous. Il a bien répété plusieurs fois.
Il a dit la France, c'est nous. Bien
donc,
sûr.
Considérez que les quartiers, c'est nous. La France, c'est nous aussi.
Bien sûr. C'est consubstantiel. Nous sommes consubstantiels à la fois à l'identité française, à sa constitution, à ce qu'elle est, à son devenir. C'est clair. Toute tentative de vouloir fracturer tout ça, ce seront des tentatives. On oublie souvent que le panthéon républicain est plein de gens qui viennent d'origines différentes. Joséphine Baker, Marie Curie, tous ces gens, des gens d'origine étrangère ont défendu la France, comme le groupe Manoukian face à l'horreur du nazisme. Itzhak Manoukian, qui est d'origine arménienne, qui s'est battu pour libérer Paris et libérer la France. Je veux dire, les gens d'origine étrangère ont fait ce pays, les 30 Glorieuses, ils l'ont construit. Donc leurs enfants continuent à le construire. Donc il n'y a pas photo, il n'y a pas discussion. Des gens comme Marine Le Pen ou comme Éric Zemmour sont en dehors de la République. Ils pensent qu'ils défendent une nation, mais cette nation, elle est dans leur tête. Ce n'est pas cette vraie nation que nous construisons,
merci,
que nos grands-parents, nos parents construisent et que nous, on continue à construire et qu'on a envie de donner à nos enfants comme héritage. Il faut aussi protéger nos enfants et parce qu'ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de protection. Et c'est de ça qu'il est question. Et moi, je pense que dimanche, en tout cas, il faut aller voter. Mais le choix, il sera vite fait, à mon avis.
Le choix, il sera vite fait. Enfin, voilà. En tout cas, moi, ce que je peux appeler, évidemment, Nasser Kétane, c'est d'aller voter. Vote, mon pote. Exprime ton opinion.
Mon pote, c'est pas mal, ça.
C'est ça, exactement. Mais je le dis depuis des années déjà. Hein. Vote, mon pote, exprime ton opinion. Allez-y dimanche. Il faut absolument, c'est impératif. Merci, Nasser Kétane.
Merci, Adil. C'était super.
C'était super, absolument. Merci à vous tous.
Donc, on fait un ftour électoral.
Un ftour électoral, exactement. Voilà. Allez, bienvenue à vous tous. Bonne journée. Prenez soin de vous.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.